Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la présentation, Grace Hamzati.
Morts, 56 blessés et 158 personnes appréhendées. C'est le nouveau bilan officiel des altercations mercredi dernier entre les adeptes de la secte Wazalendo et les forces de l'ordre à Goma au Nord Kivu, publié par le gouvernement central. Ouverture à Bukavu hier au Sud Kivu du symposium international sur la justice, la réconciliation et la paix dans la région de Grand Lac. La convocation de l'électorat à l'élection présidentielle de décembre 2023, c'est dès ce vendredi 1er septembre et un seul bureau de traitement des candidatures sera ouvert au siège de la CENI ici à Kinshasa. Comment cette opération va-t-elle se dérouler? Nous en parlons dans ce journal avec notre invité Jean-Baptiste Itipo, directeur des communications de la centrale électorale. Mesdames et messieurs, bonjour. Un nouveau bilan officiel des altercations meurtrières entre les adeptes de la secte Wazalendo et les forces de l'ordre à Goma au Nord Kivu a été publié hier par le gouvernement ici à Kinshasa. Le nouveau décompte fait état de 43 décès, 56 blessés et 158 personnes appréhendées. Le nombre des morts publié par le ministère de la Communication et Médias à travers un communiqué de presse dépasse très largement celui fourni dans un premier temps par le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général Constant Ndi, dans un communiqué quelques heures après la répression de la marche. D'autres détails avec Folkin Kosomou, Sierra Africa.
Tout en déplorant les morts, le gouvernement explique cependant que les manifestants ont mené des actions qui ont porté atteinte à l'ordre public et qui ont causé la mort par lapidation d'un élément de la police, entraînant ainsi une intervention des forces et de l'ordre pour restaurer la quiétude et la sérénité dans la ville. Le gouvernement de la République présente ses condoléances aux familles des victimes et exprime sa compassion aux blessés. Peut-on lire dans son communiqué, il précise que les blessés sont soignés dans différents hôpitaux de la ville de Goma. Il annonce aussi que parmi les personnes appréhendées, il y a les leaders de la secte Wazalendo, Ephraim Bissimwa, qui avait appelé à manifester. Ces derniers se trouvent actuellement entre les mains des services habilités, ajoute les communiqués du ministère de la Communication et Médias. Par ailleurs, le gouvernement dit soutenir l'enquête ouverte auprès de l'auditorat militaire des garnisons de Goma pour que les responsabilités soient dégagées et que les coupables puissent répondre de l'exact devant la justice. Il affirme que ceux qui ont été interpellés seront jugés en flagrance dans les prochaines heures. Aussi rassure-t-il qu'aucune impunité ne saurait être tolérée.
Au sujet de ces événements malheureux survenus à Goma le mercredi dernier, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, regrette profondément que la manifestation interdite ait occasionné la mort des civils, des policiers et des membres des forces armées congolaises ainsi que plusieurs blessés. Dans un communiqué publié hier, Madame Bintou Keïta exprime ses sincères condoléances et celles de la MONUSCO aux autorités et à la population de la RDC, aux familles des personnes décédées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La mission encourage fortement les autorités congolaises à diligenter une enquête indépendante et les invite à traiter les personnes détenues dans le respect de leurs droits en vertu de la Constitution et des engagements internationaux du pays. La MONUSCO continuera de monitorer la situation et de fournir l'appui nécessaire aux autorités pour garantir le respect des droits de l'homme dans le cadre du maintien de l'ordre et du traitement des détenus. Toujours à propos de Goma, notez aussi ces quelques réactions. Moïse Katumbi condamne la répression de cette manifestation et qualifie de massacre des civils non armés à Goma et parle d'un crime contre l'humanité. Ainsi, il demande qu'une enquête soit diligentée pour que les auteurs des tueries soient identifiés et traduits en justice. Les députés Claudel Lubaya, pour sa part, rappelle que les termes de l'article 16 de la Constitution qui dispose que la personne humaine est sacrée a été violée à la suite des interventions brutales et disproportionnées contre des citoyens non armés. Il appelle lui aussi à la justice envers les victimes. Et puis, fin mercredi en Ouganda, de la réunion stratégique des experts militaires des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et de l'armée ougandaise UPDF. Entre autres recommandations, il a été décidé d'évaluer les opérations en cours contre les rebelles des ADF tous les 4 mois contre 2 jusqu'ici. Aussi, les deux armées réaffirment leur engagement à poursuivre les opérations militaires conjointes jusqu'à atteindre l'ennemi partout où il se cacherait en RDC. La synthèse de cette réunion est rendue ici par le porte-parole adjoint de l'armée ougandaise, le colonel Deo Akiki, dans cet extrait choisi par André Kitenge.
Mkutano huo ni sehemu ya mkataba wa makubaliano kati ya serikali ya Uganda na Jamhuri ya.
Cette rencontre est une phase de l'accord de coopération entre le gouvernement ougandais et la République démocratique du Congo pour combattre conjointement les rebelles des ADF dans l'est de la RDC. L'objectif de cette rencontre était d'évaluer et de projeter les opérations Shujaa. La nouvelle phase des opérations passera donc à 4 mois au lieu de 2. Concrètement, la nouvelle phase interviendra au mois de décembre de cette année. Mais les points importants sur lesquels ils ont convenu, c'est d'augmenter la phase des opérations en 4 mois. C'est-à-dire, nous reviendrons encore en décembre pour évaluer cette opération comme nous venons de le faire aujourd'hui. Un autre point important est que cette opération a déjà produit des bons résultats. Les populations de Mwalika, Rwenzori et Irumu ont regagné leurs habitations. Et maintenant, l'ennemi a pris fuite vers le territoire de Mambasa. Nous espérons que cette opération va se poursuivre jusqu'à atteindre l'ennemi partout où il va se retrouver.
Pandasta, le coordonnateur principal de l'unité de l'appui à la stabilisation de la MONUSCO et point focal du système des Nations Unies pour le PDDRCS, a visité hier le site de transit des miliciens Maïmaï qui se sont rendus pour adhérer au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Ce site se trouve au sein du camp militaire général Chico Chitambwe de Mambangu. C'était pour s'imprégner des conditions de prise en charge de ces candidats au processus de paix afin de mobiliser les partenaires pour le financement du processus. Le reportage de Sadiki Aboubakar.
Effectif normal, ça, 14, absa justifié, 1, malade, 3.
Ces rapports de situation est donné par le responsable de tous les rendus du site. Dans leur plaidoyer, leur porte-parole décrit les mauvaises conditions de vie qu'ils mènent sur le site.
Ceux qui sont restés à Brousse, nous avons leur numéro, on parle régulièrement, ils veulent adhérer au PDDRCS, mais tout dépend de la manière dont nous sommes pris en charge. Nous vivons ici dans des conditions difficiles. On n'a pas de toilettes dignes pour nos besoins vitaux. Nous utilisons de l'eau sale, des ruissellements pour le bain, la cuisson et la boisson. Nous vivons avec des militaires dans leur camp. En cas de perte d'une arme, une tenue ou quoi que ce soit, ils nous indexent directement.
Très ému, Ibrahim Khaled, coordonnateur de l'unité d'appui à la stabilisation de la MONUSCO, promet de plaider auprès des partenaires pour la mobilisation des ressources.
Quand je rentre à Kinshasa, je vais parler avec le partenaire que j'ai trouvé des hommes et femmes courageux qui ont choisi la paix. Et je vais leur demander de mettre l'argent pour vous appuyer. Donc je vous demande de continuer votre engagement pour la paix, de parler avec vos amis qui sont toujours dans la brousse pour faire exactement comme vous avez fait.
Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
La société civile de la RDC dénonce la persistance de l'insécurité sur toute l'étendue du pays. Elle se dit inquiète de la situation sécuritaire dans la partie orientale où l'état de siège observé dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri n'a pas résolu le problème au Grand Bandundu secoué par les conflits communautaires opposant les Teke Oyaka et à Kinshasa où il y a le phénomène kidnapping. Elle a fait savoir au cours d'un point de presse tenu hier ici à Kinshasa. La société civile de la RDC propose entre autres la requalification de l'état de siège, la mise sur pied urgente d'un réseau de surveillance par caméra, l'intensification des patrouilles et les démarches diplomatiques. Les propos de Christopher Ngoy, coordonnateur général de la société civile de la RDC, sont recueillis par Junior Ika.
Soutenir le maintien de l'état de siège dans les provinces concernées moyennant une requalification dans certains domaines tels que la justice, l'administration, l'encadrement de la guerre contre les rebelles. Nous encourageons le renforcement des capacités sociales, logistiques et militaires de nos forces armées par la création d'un vice-ministère de la guerre. Dénoncer avec la dernière énergie la complaisance notoire de la police ainsi que la complicité manifeste de certaines autorités judiciaires dans le traitement des dossiers relatifs au banditisme urbain longtemps décrié. Recommander la mise sur pied urgente d'un réseau de surveillance par caméra et tout autre moyen relevant de nouvelles technologies pour lutter contre la criminalité et la cybercriminalité sur toute l'étendue de la République.
Sud Kivu, ouverture hier à Bukavu du Symposium international sur la justice, la réconciliation et la paix dans la région des Grands Lacs. Travaux organisés sous l'inspiration de l'engagement sociopolitique de Monseigneur Christophe Muzihirwa Mwenengabo comme symbole de la réconciliation. Pendant 4 jours, les débats et réflexions tournent autour des conflits armés dans la région des Grands Lacs. Le point avec Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
Les principaux intervenants dans ce symposium international, ce sont les évêques, les professeurs d'université, les religieuses et religieux, ainsi que les membres des sociétés civiles, mais aussi les acteurs sociaux et politiques. Ils réfléchissent sur les défis de la construction de la paix, de la justice et de la réconciliation dans les régions des pays traversés par les violences, les guerres et les crises multiformes. Les thèmes à développer portent sur Monseigneur Mouzi Hiroa, prophète de l'unité contre la balkanisation, les conflits politiques juridique autour des contrats miniers, les défis de la construction de la paix en RDC et l'engagement de l'Église pour une gouvernance minière non conflictuelle dans la région d'Afrique des Grands Lacs, l'apport de Mgr Mouzi Hiroa dans la position de l'épiscopat congolais sur la guerre dite de libération, aussi sur l'instabilité politique et conflits armés dans la région des Grands Lacs, la crise humanitaire et la question des déplacés de guerre dans la région de Grands Lacs. Les travaux du collège Alpha Diri de Bukavu se clôturent dimanche 3 septembre prochain. Emmanuel Elamejo Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
Autre nouvelle sur Radio Kapi, clôture de la 55e session du Conseil des ministres de la Justice, membre de l'OADA, hier jeudi à Kinshasa. Le comité des experts a examiné et amendé notamment le projet de révision de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution, le processus d'élaboration du statut des juges de la Cour commune de justice et d'arbitrage. D'autres détails sur les résolutions de ces assises avec Jeff Ngoy.
Le projet de révision de l'acte relatif aux procédures consiste à régler les difficultés d'application du texte en vigueur, mais aussi à moderniser le cadre juridique de l'exécution forcée des décisions tout en l'adaptant aux réalités des États membres. Le comité des experts recommande ainsi au Conseil des ministres d'adopter le dit projet afin de contribuer à l'amélioration du climat des affaires au sein de l'espace OADA. Il retient qu'au regard du volume croissant des affaires portées devant la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA, l'augmentation du nombre de juristes référendaires est devenu indispensable pour garantir l'efficacité de la Cour. Il recommande par conséquent au Conseil de porter ce nombre de 3 à 6 juristes en tenant compte de la soutenabilité budgétaire. Il ressort du rapport des activités sous la conduite de la RDC dans le cadre du trentenaire de cette organisation qu'en sus de la tenue d'une session de la conférence des chefs d'État, il est envisagé l'organisation d'un colloque international et la tenue d'une audience foraine à Kinshasa.
Jeff Ngoy sur Radio Kapi. Par ailleurs, le recteur de l'université de Lubumbashi encourage les étudiants qui terminent leur parcours académique à se lancer aussi dans l'entrepreneuriat à cause des caprices du marché de l'emploi. C'était le mercredi en marge du lancement de l'opération des inscriptions à l'université de Lubumbashi pour l'année académique 2023-2024. Pour le recteur Gilbert Kishiba, les étudiants ne doivent pas être seulement des demandeurs d'emploi, mais surtout des créateurs d'emplois pour lutter ainsi contre le chômage. Il est au micro de Jean Gandou.
Les étudiants aujourd'hui sont appelés aussi à l'entrepreneuriat, à l'initiative personnelle. Il est question d'initiative, de créativité, il est question d'audace. Étudiant qui se contenterait de son diplôme comme une certification de sa formation prend l'initiative, pas lui seul, mais il peut se mettre en consortium avec d'autres étudiants et créer des entreprises. Et nous sommes à l'époque où l'initiative et la créativité vous donne des possibilités de vous réaliser. La démographie étudiantine chaque année académique augmente. C'est là-dedans que se trouve justement la place de l'initiative et de la créativité. Prenons l'exemple de tel qui aura terminé en agronomie. Qu'est-ce qu'il faudra qu'il attende pour constater qu'il y a suffisamment d'espace et de place pour lutter contre la famine? Un médecin peut-il chômer? Un juriste doit-il croiser les bras? Ainsi de suite.
Direction le Kassai Oriental, où les agents et travailleurs de SACIM, Société Anhui Congo d'Investissement Minier, sont en grève depuis bientôt un mois. SACIM est une entreprise qui exploite le diamant sur les sites de Tchiboué, dans le territoire de Miabi. Les agents et travailleurs de cette société réclament la paix des arriérés de 4 mois de salaire. Des sources proches de l'entreprise affirment que cette situation est consécutive à la suspension de l'exploitation minière par cette entreprise. Des explications avec Esther Ndalafina.
Les agents et travailleurs de la SACIM sont à leur deuxième mouvement de grève depuis bientôt un mois. Au mois d'avril dernier, ces agents sont allés en grève pour réclamer la paye des arriérés de 5 mois de salaire. Certains agents affirment que l'entreprise a organisé la paye d'un seul mois. Il s'agit donc des salaires du mois de mars dernier pour permettre aux agents de préparer la rentrée scolaire. Cependant, les experts en droit minier évoquent surtout l'arrêté ministériel limitant le monopole d'achat des pierres précieuses à 5 opérateurs congolais préalablement présélectionnés par le gouvernement comme cause principale du dysfonctionnement de la société ANU Congo d'investissement minier. Face à cette situation, la SACIM, qui vendait toujours sa production à l'extérieur du pays, ne sait plus actuellement faire face à certaines charges dans la paye des salaires des agents. En dernière nouvelle, nous apprenons que le gouvernement a nommé il y a quelques jours un directeur général à la SACIM. Un groupe d'agents a rencontré ce mercredi le gouverneur de province intérimaire pour manifester leur enthousiasme et lui présenter aussi leurs doléances. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Conseil des paix et de sécurité de l'Union africaine annonce ce jeudi la suspension avec effet immédiat du Gabon où des militaires ont renversé mercredi le président Ali Bongo Ondimba. L'organisation continentale condamne fermement la prise de pouvoir par les militaires en République du Gabon et décide de suspendre immédiatement la participation du Gabon de toutes les activités de l'Union africaine, de ses organes et institutions, annonce l'Union africaine dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux Twitter.
L'invité.
Du 9 septembre au 8 octobre 2023, tous les candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain sont appelés à se conformer aux exigences de la loi électorale par le dépôt des dossiers de leur candidature. L'électorat à l'élection présidentielle est convoqué dès ce vendredi 1er septembre et un seul bureau de traitement des candidatures sera ouvert au siège de la CENI. Comment cela va-t-il se dérouler? Nous recevons le directeur des communications de la CENI, Jean-Baptiste Iti, pour s'entretien à ce sujet avec Jeff Ngoy.
Bonjour Jean-Baptiste Itipo.
Bonjour.
La CENI convoque l'électorat présidentiel demain vendredi 1er septembre. Quelles sont les modalités pratiques et formalités d'usage auxquelles doivent s'en tenir les candidats?
Voici quelques éléments de réponse. Les modalités sont celles prévues notamment dans la loi électorale, spécialement à l'article 109. Et cet article dit exactement ce qui suit. Sans préjudice des autres cas d'exclusion prévus par la loi électorale, nul ne peut être candidat à l'élection présidentielle s'il ne remplit les conditions ci-après. Posséder la nationalité congolaise d'origine, être âgé de 30 ans au moins, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, avoir un diplôme d'études supérieures ou universitaires, ou justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans les domaines politiques, administratifs ou socio-économiques, avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature. Et comme vous l'avez suivi, la Commission électorale nationale indépendante a publié un communiqué de presse dans lequel la CENI précise que la convocation de l'élection, de l'électorat pour l'élection présidentielle aura bel et bien lieu le 1er septembre 2023. Et cela conformément à la disposition de la Constitution qui fixe cette convocation 90 jours avant, n'est-ce pas, à la fin du mandat du président en exercice. Et donc, la CENI est donc dans les délais fixés par la Constitution.
Quel document doit apporter le candidat à l'élection présidentielle au BRTC de la CENI?
La déclaration de candidature à l'élection présidentielle doit comprendre les éléments ci-après. D'abord, il y a la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la CENI et qui doit être signée par le candidat. Il y a une fiche d'identité suivie d'un CV détaillé. Le tout se terminant par la formule que nous connaissons bien, je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts. Il y a 4 photos format passeport, de préférence des photos récentes et en couleur, un symbole ou un logo du parti politique ou du règlement politique, sauf pour les candidats indépendants. Et à la déclaration de candidature, Chaque candidat président de la République doit joindre les pièces ci-après. Un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire en cours de validité, une photocopie de la carte d'électeur, un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature non remboursables de 160 millions de francs congolais versés dans les comptes du Trésor public, l'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour les candidats indépendants, bien entendu, une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou universitaires ou de l'attestation en tenant lié ou de l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans les domaines politiques, administratifs ou socio-économiques.
Comment les Congolais de l'étranger et les candidats à cette élection se trouvant à l'étranger vont-ils procéder pour se conformer aux exigences de la loi électorale?
Les candidats se trouvant à l'étranger et qui désirent participer à la présidentielle peuvent agir directement par eux-mêmes ou soit par les canaux de leur mandataire. Dans tous les cas, le bureau de réception et traitement des candidatures à la présidentielle de 2023, ce bureau est installé au siège de la CENI à Kinshasa. Et donc, les dossiers de candidature seront déposés à Kinshasa, au siège de la CENI, précisément au bureau de réception et traitement des candidatures. Et il n'y aura qu'un seul bureau, il n'y en aura pas deux, il n'y en aura même pas à l'étranger. Seulement l'unique bureau pour tous les candidats présidents de la République, et ce bureau sera ouvert et opérationnel du 9 septembre au 8 octobre 2023, soit pendant 30 jours, de 8h30 à 16h30, heure de Kinshasa.
Jean-Baptiste, quoi de neuf sur l'enrôlement des électeurs de Kwamutu?
En ce qui concerne l'enrôlement des électeurs dans les territoires de Kwamutu, dans la province du Maïndombe, l'opinion se souviendra que la CENI s'y apprêtait déjà et qu'une mission de la CENI s'y était rendue pour amorcer le processus de démarrage de l'enrôlement à Kwamutu. Mais cette mission a été stoppée du fait que l'insécurité régnait encore dans cette partie de la République. Au jour d'aujourd'hui, si le gouvernement de la République, qui a la charge d'assurer la sécurité, notifie à la CENI que la paix est revenue dans tous les territoires de Kwamutu, la CENI va déployer, n'est-ce pas, ses équipes pour enrôler les électeurs. Mais jusqu'au moment où je parle avec vous, la CENI n'est pas encore notifiée dans ce sens.
Je vous remercie.
Jean-Baptiste Etipo, directeur des communications de la CENI, répondait aux questions de Jeff Ngoy. Voilà, fidèles auditeurs de la fréquence de la paix, ce journal touche à sa fin. Merci à Martin Sebujangwe qui l'a supervisé et Dieudonné Nyangasa qui l'a mis en onde. Vous pouvez les retrouver sur www.radiokapi.net. Merci également à vous de l'avoir écouté et bonne suite de la matinale avec Julie Ngala.